Lorsque Charles Wagner a inauguré ce foyer de l'âme en mars 1907, il a prononcé un très beau discours dont voici quelques extraits. Nous nous efforcerons d'être les disciples du Christ. Il ne méprise personne. Dans cette vie de combat, il choisit l'amour, aime tous les hommes, de quelque couleur que soit leur visage ou leur pensée, les bons et les méchants, les grands comme les petits. Il les aime sans distinction, de son cœur immense comme le ciel et profond comme la mer, et met dans l'ombre où nous sommes tant de bonté, de simplicité, de divine clarté, que le sillage de ses pas ne s'est pas encore effacé sur nos flots tumultueux. Il sera ici. Il parlera dans le silence des cœurs. Il mettra, l'une dans l'autre, les mains des adversaires. Il arrêtera d'un sourire le zèle amer qui prêche contre les voisins. Il empêchera qu'on lance l'anathème, lui qui ne l'a pas connu. En lui, nous aimerons tout ce qui souffre sur la terre, tout ce qui travaille, espère et prie. En souvenir du bon berger, de qui toutes les brebis ne sont pas dans le même bercail, nous aimerons l'universelle chrétienté. Nous nous sentirons en harmonie de cœur avec la chrétienté catholique, dans ce qu'elle a de vraiment religieux, d'incliné devant l'éternel problème de la vie. Nous fraterniserons avec toutes les parties du protestantisme. Personne ici jamais n'entendra une parole qui soit dirigée contre une église ou une fraction d'église. Nous nous sentirons prêts par le cœur et par l'esprit de tous les penseurs libres et respectueux de la pensée des autres, de tous ceux qui mettent la vérité et la fraternité au-dessus de tout et que travaille le souci du mieux. En un mot, ici, on enseignera l'humanité. On saluera de frères tout homme de bonne volonté. Et vous, vous qui pensez, doutez, cherchez, quelle que soit votre activité et votre situation sociale ou intellectuelle, vous serez les bienvenus. Il fera bon ici pour chacun. Nul ne sera chez l'autre et chacun sera chez soi. On vous y aimera tel que vous êtes. Nous ne vous flatterons point. Nous ne vous dirons pas non plus de ces duretés inutiles qui font du mal sans améliorer personne. Nous vous dirons la vérité, tout simplement. Nous parlerons franchement de toutes choses. Ici, on pensera ensemble. On fera de l'éducation mutuelle par la collaboration des idées. Et l'on aimera la réplique, la contradiction même, tout signe indiquant que la parole entendue a produit son effet sur l'esprit. Car sachons-le, si nous voulons que nous soient dites des paroles de vie, des paroles qui soient du pain pour nos âmes, il faut apporter un esprit réceptif, ouvert, plein de sincérité, assoiffé de tout ce qu'il y a de meilleur. La parole sonnera toujours dans le vide lamentable si nous n'allons pas à sa rencontre avec toute une réserve de bonne volonté, si nous ne franchissons le seuil d'un temple que pour nous confirmer dans nos partis pris, peut-être même seulement pour jouir d'une heure de divertissement intellectuel ou religieux. Et c'est à croire que Charles Wagner avait anticipé il y a 120 ans bientôt le thème de notre nouveau cycle de culte-conférence « Faut qu'on se parle ». Et qu'il avait gentiment, en tout cas gentiment pour moi, pris le soin d'en rédiger le texte introductif. Et c'est une joie d'accueillir ce matin Florian Forestier. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur. Dont la conférence aura pour thème « Créer à travers les mots cette place qui n'existait pas ». Et c'est aussi une joie de vous accueillir, vous, qui que vous soyez, quelle que soit votre appartenance, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre recherche, vos questionnements, avec votre désir d'écouter et de débattre. Et à nous tous, qui que nous soyons, la grâce et la paix sont données par Dieu le Père qui nous aime. Alors, vous connaissez le mode d'emploi, vous avez ici le déroulé de notre culte-conférence dans les petits documents blancs et dans les livrets marrons, vous avez les cantiques que nous chanterons quand ils seront annoncés. Et je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Et nous prenons le psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Les strophes 1, 2 et 4. Le 25, 1, 2, 4. Nous écoutons dans Éphésiens la volonté de Dieu. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres, mais s'il en est besoin, quelques paroles bonnes, capables d'édifier et d'apporter une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous, comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et voici comment Jésus a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Nous prions. Notre Dieu, nous nous remplissons de ce que nous disons, de ce que nous faisons, de ce que nous possédons. Mais c'est dans notre pauvreté que nous nous présentons devant toi. Nous manquons de silence pour descendre en nous-mêmes et t'y rencontrer. Nous manquons de joie pour diffuser un peu d'espérance autour de nous. Et nous avons faim, faim du pain de ta parole, faim du pain de ta tendresse. et nous avons soif, la soif de la justice et du droit, de la fidélité et de la fraternité. Mais parfois, nous sommes tellement remplis de nous-mêmes que nous n'éprouvons plus cette faim et cette soif. Alors viens toi-même nous aider à faire le tri en nous et à discerner entre ce qui nous remplit et ce qui nous manque. Viens nous nourrir et nous désaltérer en vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour écouter l'annonce du pardon. Vous m'attendez dans la toute-puissance, dit Dieu, et je suis dans la fragilité des humains. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues, et je viens à vous dans la fraîcheur de la nouveauté. Vous me voulez comme réponse, et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous me façonnez à votre image, et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant. Mais dans vos errances, un avenir de tendresse se prépare, où je vous attends comme la nuit attend le jour. Et dès aujourd'hui, je vous donne la grâce et la paix pour qu'elles demeurent au milieu de vous. Et nous prenons le 299. Ô parle-moi Seigneur, les trois strophes. Voici venu le temps de notre conférence, le temps d'accueillir Florian Forestier, qui a choisi le thème de cette conférence, créer à travers les mots cette place qui n'existait pas. Florian Forestier, vous êtes écrivain, philosophe, vous êtes né en Suisse, à Bâle, j'ai peut-être le droit de dire en quelle année, en 1981. Vous êtes l'auteur d'ouvrages académiques littéraires, des romans Basculés, paru en 2021, Un si beau bleu en 2024, et vous avez été diagnostiqué porteur d'un trouble du spectre de l'autisme à l'âge de 25 ans. Vous êtes appliqué à développer à partir de votre situation personnelle, de vos connaissances, de votre démarche, une compréhension spécifique de cette expérience de l'autisme. Et c'est ce que vous avez exprimé, je crois, dans votre ouvrage « Mes labyrinthes », paru aux éditions du Faubourg en 2023. Et vous travaillez aussi depuis plusieurs années à des questions de régulation sur le sujet du numérique, dans le cadre d'un think tank, think tank qui est nommé le plus important. Et vous êtes l'auteur dans ce contexte de certains essais, désubériser, reprendre le contrôle, par exemple, aux éditions du Faubourg, là encore, et pour une nouvelle culture de l'attention chez Odile Jacob. Je cite les éditeurs parce que vous retrouverez les livres après à la sortie de cette conférence. Et c'est maintenant le temps de vous accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Eh bien, merci beaucoup. Il va falloir que je surmonte un peu ma timidité d'intervenir dans ce cadre assez inhabituel pour moi et que j'affronte en plus le défi que je me suis moi-même lancé en n'ayant pour support que des gribouillages que je dois déchiffrer comme aide un peu à cette parole que j'ai voulu le plus improviser possible. Peut-être je vais commencer par quelques mots faisant vraiment écho à ce qui vient d'être dit, pour expliquer, disons, d'où je parle et pourquoi j'ai jugé utile de me présenter ici, dans le cadre de cette conférence, sous cette triple, je ne dirais pas identité, mais en tout cas sous cette triple caractérisation, à la fois de docteur en philosophie, de personne qui a un diagnostic du spectre autistique, et d'écrivain. Alors, peut-être en annonçant tout de suite que le fil conducteur qui m'amène justement à la question de la parole, c'est celui du corps, et c'est celui de la manière dont le corps porte et en même temps retient la parole, et dont le rapport particulier que l'autisme en particulier emmène à développer avec son corps rend justement beaucoup plus, sans doute plus crucial pour nous que pour d'autres personnes, la question de la façon dont il faut inventer, développer une parole qui face à la fois à lien et qui exprime quelque chose qui trouve difficilement place dans le langage tel qu'il est habituellement fait et parlé. Alors, peut-être pour commencer, je dirais que, en effet, je suis, je ne vais pas dire de profession, mais de métier philosophe, et qu'il se trouve que la tradition en philosophie dans laquelle je me suis d'abord développé est celle qu'on appelle la phénoménologie. Et une des opérations essentielles de la phénoménologie, comme vous le savez sans doute, c'est ce qu'on appelle l'époké ou et la réduction, c'est-à-dire la mise en suspens du monde, la déprise de la validité, de l'effectivité immédiate du monde qui permet de porter son attention sur la manière dont le monde m'apparaît, se montre à moi, me retient, me sollicite, s'impose à moi. Or, il se trouve que le moment de mon diagnostic, à 25 ans, est venu interrompre cette pratique académique en m'amenant à faire ce qui m'apparaît maintenant comme une sorte d'autre forme de réduction, en me montrant que l'accès à cette expérience-là nécessitait un détour plus long, plus complexe que celui simplement des opérations classiques de la phénoménologie. Et donc je lis vraiment intimement ma démarche philosophique et ce que le recul que l'annonce de ce diagnostic m'a fait prendre sur cette pratique philosophique elle-même. Et je me permets de faire un petit clin d'œil parce que cette idée de détour et de voie plus longue vers la réduction, c'est aussi d'une toute autre manière, ça a été le cœur des travaux de Paul Ricoeur que je ne juge pas totalement inutile d'évoquer ici. Donc, il se trouve que la question du diagnostic et toutes les connaissances plus ensuite empiriques, plus médicales, plus biologiques que je me suis mis à développer sur la réalité biologique de l'autisme, sur le corps, m'ont permis de prendre vraiment davantage la mesure de ce qu'impliquait cette question du corps. Alors, et peut-être de revoir certaines grandes questions qui ont été posées par la philosophie sur le rapport de la subjectivité au corps. Et c'est de là dont je voudrais partir. Parce que, pour le dire très vite, alors, je vais essayer de développer ça en quatre grands points. Le premier, c'est donc d'insister vraiment sur cette question du corps. Ensuite, de montrer comment cette question du corps, dans l'autisme en particulier, intervient sur la construction de l'intersubjectivité. Est-ce que l'expérience corporelle particulière dans l'autisme peut nous apprendre sur le fait que l'intersubjectivité n'est pas quelque chose d'immédiatement donné dans le pas face à face, mais qu'elle implique un détour, une distance beaucoup plus grande, que l'intersubjectivité n'est pas un donné social, mais que pour être vraiment digne de ce nom, pour qu'elle soit vraiment digne du nom de rencontre, elle a à se construire. La rencontre n'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose de possible, mais de rare, qui se bâtit. Donc, et mon troisième temps ensuite sera d'élargir cette question-là à la question du social, du rapport entre le corps et l'appartenance sociale, en montrant comment le corps est à la fois travaillé par la vie sociale, mais en même temps qu'il y a des interstices, et que c'est ce corps qui nous remet nous-mêmes dans nos propres mains, et nous ramène à notre individualité, à notre singularité absolue que le social n'avale pas. Et enfin, je terminerai, en espérant ne pas être trop long, sur la question du langage à proprement parler. Alors, la question du rapport de la conscience au corps, elle a été extrêmement prégnante en phénoménologie, hein, que ce soit chez ses fondateurs, que ce soit chez Husserl et chez Merleau-Ponty. Je ne vais pas faire un cours de philosophie, rassurez-vous, mais il y a une tendance qui est à la fois très forte et qui me semble important à discuter, de vouloir, chez ces auteurs, déprendre au maximum, et ça se comprend, la conception qu'on se fait du corps, de la conception biologique du corps, pour essayer de penser au maximum le corps comme corps vécu, que ce soit chez Husserl en essayant de montrer comment une conscience s'approprie d'une certaine manière le corps, s'approprie au sens de le revêt, de telle façon que via la conscience de mouvement, via la conscience, le couplage de la conscience de mouvement et de la conscience de sensation, via ce que Husserl appelle les kinesthèses, la conscience, au cours du développement, finit par investir le corps, à se l'approprier comme un vêtement, de telle sorte que le corps finalement devient l'émanation, l'accomplissement du sujet, que le corps devient corps vécu, mais corps vécu comme s'il était l'expression d'une volonté, comme s'il était l'expression d'un pouvoir d'agir, l'expression d'un acte. Ou d'une toute autre manière, mais finalement avec des échos assez similaires chez un auteur comme Merleau-Ponty, où pour Merleau-Ponty, tout part du corps, mais c'est le corps qui est la force organisatrice, c'est le corps qui est la force subjectivante, qui est la matrice, le corps est une sorte de désir du monde. Et dans les deux cas, on voit que ce corps pensé comme corps vécu est en même temps finalement un corps extrêmement entrelacé à la subjectivité, qui la porte, qui la déploie, qui l'exprime. Or, ce que l'autisme m'a appris, et qui, à mon avis, est très fort dans l'autisme, mais qui est le cas aussi chez tout un chacun, c'est que pour être corps propre, le corps doit aussi résister. C'est que le corps n'est jamais tout à fait corps propre, que nous sommes inscrits dedans, mais qu'il nous résiste extrêmement fort, qu'il nous résiste très fortement, qu'il ne cesse de bourdonner, que ce qui nous permet d'être nous-mêmes via notre corps, c'est en même temps la façon dont il ne cesse de nous échapper, la façon dont il ne cesse de nous emporter. Et dans l'autisme, c'est, entre guillemets, pas une image, mais une réalité constante, parce que notre motricité n'est pas tout à fait possédée, de telle manière que tous les automatismes de mouvements spontanés ne sont pas forcément là, ce qui fait que notre corps nous échappe sans cesse, que nous ne faisons pas ce que nous croyons faire, que lorsque nous n'y pensons pas, nous faisons totalement autre chose, comme si le corps était un vêtement trop grand, mal ajusté, qui partait dans tous les sens, qui pendait autour de nous, qui allait trop loin quand on se lance, enfin, qui est décalé par rapport à la volonté, qui, bien sûr, n'est pas sans... sur lequel, bien sûr, la volonté n'est pas sans prise, mais que la volonté ne s'approprie jamais totalement. Donc on est dans cette forme permanente de bourdonnement, dans cette forme permanente de rattrapage comme un cosmonaute, finalement, où notre corps ne nous porte pas seulement, mais on en sent aussi le halo lourd et un peu pesant, parfois qui nous donne de l'élan, mais assez souvent qui nous résiste. À cela, il faut ajouter toutes les questions d'une anxiété permanente, de réactions émotionnelles très très fortes, ce qui fait vraiment que dans l'autisme, le corps est un bruit qui ne se tait jamais. Le corps n'est pas quelque chose qui nous porte, ou s'il nous porte, il nous porte de manière volcanique, brutale, et en prenant un temps qu'on ne peut pas lui refuser. Nous sommes obligés de nous faire nous-mêmes, de faire notre être au monde, et de faire notre relation aux autres, dans la durée, dans la résistance, dans la tectonique profonde de ce corps qui ne nous appartient pas. Et ça me semble extrêmement important à souligner, d'autant qu'il y a maintenant beaucoup d'idées contemporaines qui insistent justement sur l'idée, au contraire, d'une émancipation par construction du corps. Comme si le corps, c'est en particulier tout ce qu'on trouve dans les dites théories queer, comme si le corps pouvait devenir une simple expression performatrice d'une identité, comme si chacun avait à se construire son corps, comme si le chemin de la liberté, c'était l'autoconstruction d'une identité via un corps qui en soit la pure émanation. Alors, cela est de différentes manières, et là je le caricature un peu, mais au cœur de tout ce qu'on appelle les théories du genre, etc. Mais ces différentes visions ont pour point commun de penser une forme d'émancipation ou de libération via la construction du corps. Comme si l'affirmation ou l'assomption d'une singularité passait par la construction d'une bizarrerie. Or, dans l'autisme, les choses ne se passent pas comme ça. Au contraire, le corps se montre en permanence indisponible à la construction. Il se montre en permanence indisponible à cet art de la sculpture. La bizarrerie n'est pas quelque chose qu'on va afficher. La bizarrerie est quelque chose qui résonne en nous, qui revient en nous, quoi qu'on fasse. Et si on essaie de construire quelque chose avec elle, c'est une construction qui ne nous appartient pas. C'est une manière de s'ajuster, de reprendre, mais de reprendre ce poids, cette matière qui est toujours là, qui revient, qui défait. Donc ça, c'est ce rapport particulier à un corps qui ne nous appartient pas, qui nous résiste, qui n'est pas disponible à une bizarrerie qui soit vraiment la nôtre, et pour utiliser d'autres mots, mais une bizarrerie qui n'est pas du coup spectaculaire, qui n'est pas cool, une bizarrerie qui a ses aspects un peu lourds, ses aspects un peu bizarres. Il me semble vraiment très très important d'insister là-dessus, parce que pour le coup, ce type de bizarrerie, c'est une bizarrerie qui vient brouiller à la base les racines et la possibilité de l'interaction, parce que c'est pas une bizarrerie qui affiche clairement qui on est, au contraire c'est une bizarrerie qui traverse, qui écrante notre rapport aux autres et au monde en permanence, comme une sorte de brouillage, comme une sorte de flou, et via laquelle on a à se construire, via laquelle on a à élaborer, construire une relation. Et ça m'amène à mon deuxième temps, qui est le rapport à ce qu'on appelle l'intersubjectivité. Parce que là aussi, que ce soit les philosophes, que ce soit les médecins, réfléchissent de plus en plus à la manière dont le corps est la matrice de l'intersubjectivité. La manière dont, pour, je ne vais même pas dire rencontrer les autres, mais pour être en société avec les autres, pour comprendre les autres, il faut d'abord qu'il y ait une première brique de l'intersubjectivité qui est directement liée au corps, qui se met en place dès les toutes premières années, dès les tout premiers mois, dès sans doute les tout premiers jours de la naissance, où les petits gestes moteurs résonnent, de la mère à l'enfant, de l'environnement à l'enfant, le regard de l'enfant se coordonne avec le regard de l'environnement. Il y a tout cet ajustement qui passe aussi beaucoup par l'imitation, qui passe par un certain nombre de tendances. On a tendance à imiter, les enfants ont tendance à imiter plutôt ce qui leur ressemble. Il y a ce qu'on appelle des contaminations émotionnelles. Enfin, il y a toute une manière pour le corps d'engrammer dès la toute petite enfance une sorte de pré-rapport à autrui sur la base de laquelle ensuite peut s'instituer une relation plus stabilisée. Or, justement, ce sont tous ces mécanismes-là, ce sont toutes ces fonctions qui permettent au corps dès l'enfance d'établir cette intersubjectivité qui, dans l'autisme, sont brouillées. L'imitation est brouillée, la capacité à imiter est brouillée, le rapport émotionnel est brouillé, le rapport moteur, je l'ai dit, le rapport de la coordination sont brouillés. Donc, cette brique première n'est pas tout à fait là. Mais cela veut-il dire que cela conduit à un inexorable déficit de la relation de l'intersubjectivité chez les personnes autistes? Sans doute non. Et c'est là où, d'ailleurs, je suis un peu en discussion et en controverse avec un ensemble de médecins, parce que ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que tous ces mécanismes qui ont lieu dès l'enfance, que ce soit l'imitation, que ce soit ce qu'on appelle la contamination émotionnelle, c'est le fait d'être immédiatement happé par les sentiments d'autrui, ils ne sont pas unilatéralement déficitaires chez les personnes autistes. Simplement, ils ne fonctionnent pas exactement de la même manière. C'est-à-dire, il y a imitation, mais pas forcément au même moment, pas forcément de la même chose. Il y a ce qu'on appelle de l'attention partagée. Alors, l'attention partagée, c'est le fait qu'à un moment donné, un enfant va regarder la même chose qu'un adulte en étant conscient que cet adulte le regarde. Donc, c'est le moment où une relation se construit via le contact partagé d'un objet. On a longtemps tendance à penser que ça, justement, c'est quelque chose qui était très peu là dans l'autisme et que c'était une des briques essentielles qui manquait. Ce qu'on remarque de plus en plus maintenant, c'est que ces processus sont là dans l'autisme, mais pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire, il va y avoir de l'attention partagée, mais pas forcément en direct. Alors, le jeune enfant autiste va regarder ce qu'a regardé sa mère, mais après, bien plus tard. Donc il se rend bien compte qu'il y a une relation, mais la relation, elle ne se fait pas en direct. Alors, le jeune enfant autiste ne va pas forcément utiliser le regard, mais il va entendre. Donc, il y a de la construction de relations partagées, il y a des objets, mais elle ne se fait pas exactement de la même manière, elle se fait beaucoup moins en direct, elle utilise beaucoup moins en support le contact immédiat, instinctif du corps. Mais elle se fait quand même. Et à quoi ça nous conduit, finalement? Ça nous conduit au fait qu'il y a bien une intersubjectivité corporelle, une base intersubjective corporelle dans l'autisme, qu'il y a bien une intersubjectivité, mais qu'elle est moins immédiate, instinctive, articulée. C'est que l'intersubjectivité des personnes autistes, elle implique fatalement, beaucoup plus fortement, la distance. Et finalement, est-ce que cela ne nous renvoie pas à la question de l'intersubjectivité, de la rencontre en général? Parce que croire que la relation à autrui est essentiellement une relation de face à face, croire que l'ajustement social, croire que le fait d'avoir les bonnes réactions, croire que de partager dans une situation immédiate les bonnes émotions, croire que tout ce qui finalement relève des rencontres quotidiennes, sociales, croire que ça, c'est la racine de la rencontre au sens fort, c'est avoir une vision un peu pauvre de ce que c'est que rencontrer autrui. Et ce que l'autisme nous apprend, c'est qu'il existe, c'est que la relation à autrui implique et mobilise bien d'autres ressorts que ceux du face-à-face immédiat, que le rapport, que la parole en particulier, que le rapport à l'écrit, que le rapport à la trace, que le rapport à la mémoire sont essentiels, et dans l'autisme, d'autant plus essentiels que sans doute, il n'y a pratiquement que cela, que l'ajustement immédiat se faisant très peu, c'est vraiment l'écho, c'est vraiment le souvenir, c'est vraiment la résonance. Autrui n'étant pas immédiatement donné, il faut qu'il résonne, il faut qu'il reconstruise, il faut que je l'entende, il faut que je le laisse retentir en moi. Et toute cette et finalement, est-ce que cet écart qui est manifeste dans l'autisme, ça ne révèle pas, de manière plus générale, que ce que l'on considère le plus souvent comme étant le fait d'être avec autrui, le fait d'être ensemble, le fait d'être face à face, n'est qu'une vision assez pauvre de l'être ensemble, que la vérité de la rencontre n'est pas quelque chose qui se fait seulement en face à face, mais que la rencontre, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui se construit. On ne rencontre pas tout le monde, et toutes les personnes que je vois, toutes les personnes avec qui j'interagis ne sont pas des personnes que je rencontre. Et la difficulté dans le cas de l'autisme à avoir une interaction normée, immédiate, standard, ça les renvoie, ça renvoie ces personnes en permanence au fait que pour elles, finalement, il ne peut y avoir que des vraies rencontres. Parce que tous les déterminants sociaux un peu automatiques de l'être en commun, de social, ne sont pas là. Donc, quand on ne rencontre pas quelqu'un, mais cette personne, on ne peut pas se leurrer. On ne peut pas se leurrer sur la qualité de la relation qu'on a avec quelqu'un. Et je pense que c'est d'autant plus important que ça ne concerne pas seulement ce que j'ai appelé l'intersubjectivité, la relation de deux personnes, parce que tous ces mécanismes corporels que j'ai évoqués, le rôle de limitation, le rôle de la contamination émotionnelle, le fait qu'on ait tendance à imiter plutôt ceux qui nous sont semblables, enfin, tous ces mécanismes du corps qui soutiennent l'intersubjectivité soutiennent en réalité plus que l'intersubjectivité. Ces mécanismes soutiennent aussi le sentiment plus général d'appartenance, soutiennent aussi de manière plus, le sentiment plus général des groupes sociaux, soutiennent, disons, ce que les sociologues, ce que Bourdieu en particulier, appelle les habitus. Les habitus, pour quelqu'un comme Bourdieu, c'est beaucoup plus que simplement de l'intersubjectivité. C'est ce qui est commun à un certain groupe, à une certaine classe sociale. Ce sont des ensembles structurés de dispositions qui collent ensemble et qui sont ultimement fortement ancrés dans le corps. C'est le corps qui, à l'origine, intériorise une certaine façon d'être en société. Et cette façon d'être en société, elle va ensuite moduler très finement mes goûts, ma manière de parler, ce que je préfère, mes affinités. Donc c'est toute la structure sociale et toute l'identité qui s'inscrit ainsi dans le corps. Et donc, lorsque dans l'autisme il y a un brouillage de tous les mécanismes primaires d'imitation, c'est non seulement l'intersubjectivité, mais c'est toute la constitution des habitus qui est brouillée. Et qu'est-ce que cela peut alors entraîner ? Si une personne autiste a des habitus qui ne sont pas forcément fonctionnels de la même manière, cette personne ne va pas avoir le même sentiment d'appartenance. Disons, le social ne le tiendra pas de telle façon qu'il sera pour lui acquis, qu'il appartient à tel ou tel groupe. Donc, cette personne sera en permanence, et beaucoup plus que d'autres sans doute, confrontée à sa solitude, à son individualité, parce qu'elle ne se sentira pas d'abord membre d'un groupe. Elle ne se sentira pas tenue par une identité sociale, du moins pas prioritairement. Les rôles sociaux seront peut-être là, mais ils glisseront, ils batailleront. Et pour moi, c'est un élément essentiel de deux choses. C'est un élément essentiel, d'une part, des difficultés que beaucoup de personnes autistes rencontrent. À mon avis, ces difficultés qui vont vraiment jusqu'à la souffrance, hein, il y a une prévalence du suicide qui est gigantesque, qui est de 10 à 15 fois supérieure en pourcentage aux personnes non autistes. Ces difficultés sont souvent liées, imputées au rejet que rencontreraient ces personnes. Pour moi, ça va sans doute plus loin. Pour moi, il y a vraiment en fond de ces difficultés, de ce mal-être, le fait que les structures sociales dans l'ensemble, l'identité sociale dans l'ensemble, étant moins inscrites en ces personnes, elles sont beaucoup plus que les autres confrontées à la singularité de leur vie. Vous savez, ça, c'est la question de la manière dont le social nous tient, et c'est une des questions originaires de la sociologie. C'est dès Durkheim. Quand Émile Durkheim, donc le grand sociologue, a mené ses premières études sur le suicide, sociologiques sur le suicide, pour lui, le suicide, ça posait à la fin du XIXe siècle la question de les différents motifs pour lesquels les personnes se suicidaient. Alors, ça montrait justement que le social, se mettant à moins tenir les gens qu'avant, chaque individu était confronté à une situation que Durkheim appelait l'anomie, c'est-à-dire quand on est moins tenu. Quand on est moins justifié, quand on est moins tenu par le social, on est obligé de se consacrer, d'être confronté au sens de sa vie. C'est assez difficile. Et pour moi, je pense que les personnes autistes sont particulièrement confrontées structurellement à cette situation d'anomie, justement parce que le social ne leur tient pas. Et donc, elles sont beaucoup plus que d'autres confrontées à une sorte d'existentialisme imposé. Pour elles, le sens de leur vie est d'une manière ou d'une autre à leur charge, quoi qu'elles fassent, parce qu'elles ne pourront pas s'inscrire, s'intégrer dans quelque chose, dans une identité, dans un rôle, dans un automatisme qui les justifieront. Elles seront toujours. Ce rôle ne tiendra pas, ce rôle s'estompera, le corps rejettera ce rôle, leur corps ne le retiendra pas, et elles seront toujours ramenées à elles-mêmes. Pour moi, c'est un élément très très important, non seulement parce qu'il implique de la souffrance, mais aussi parce qu'il implique, mais non de manière biologique naturelle, mais de manière réactive, une forme de créativité. Parce qu'à partir du moment où le sens n'est pas donné, où le rôle n'est pas donné, à partir du moment où la manière dont on hérite de la société ne nous est pas évidente, pour en faire quelque chose, pour vivre notre vie, on est obligé de se l'approprier, de la réinventer, et pour exister, on doit remalaxer la matière sociale, la matière littéraire, la matière du langage, et en faire quelque chose d'autre. Et Pour moi, c'est par cette forme d'anomie très particulière que les personnes autistes sont assignées à une forme de créativité qui n'est pas, encore une fois, une créativité superficielle, qui n'est pas une créativité inventive, qui n'est pas une créativité d'ingénieur, qui est plutôt la créativité d'un chemin de vie à travers un monde qui n'est pas originellement forgé pour nous et dans lequel on doit trouver une trace. Et c'est particulièrement vrai, et je finirai sur ce point, pour le langage. C'est particulièrement vrai, d'une part, parce que le langage est évidemment un élément majeur du social, mais aussi parce qu'il y a, et là, de point de vue vraiment biologique chez les personnes autistes, quelque chose de tout à fait particulier dans la manière dont les personnes autistes apprennent à parler et parlent. Alors, on le sait, en général, chez la plupart des enfants, disons non autistes, le langage, ça va s'apprendre d'abord de manière pragmatique. C'est-à-dire, on apprend le langage pour s'adresser à quelqu'un. Ce n'est la plupart du temps pas le cas chez les personnes autistes. La plupart du temps, les personnes autistes ne prononcent pas leurs premiers mots de cette manière-là. Alors, il se trouve que moi, si, mais moi, mon premier mot, c'était non. Donc, ça commence bien. J'espère que ce ne veut pas dire que j'ai été marqué par l'esprit qui toujours nie, mais quoi qu'il en soit, chez les personnes autistes, assez souvent et la plupart du temps, les premiers mots viennent très tard et ce sont des phrases, parce que ce que les personnes autistes font, ce n'est pas s'adresser aux autres, mais retenir des phrases. Donc, elles ont d'emblée un rapport un peu littéraire au langage et finissent par parler beaucoup plus tard, pas forcément à quelqu'un, parfois toute seule, parfois au hasard, par des phrases complètes, qui sont souvent d'ailleurs des phrases qu'ils ont entendues ou qu'ils reconstituent. Il y a un rapport totalement différent au langage, et ça engendre aussi une expérience intime très très différente du langage, parce que à partir du moment où on a ce rapport un peu littéraire, où le langage n'est pas d'abord quelque chose qu'on utilise spontanément, dans lequel on baigne spontanément pour s'adresser à autrui, mais quelque chose qui nous vient, qu'on stocke, qu'on retient, mais comme si le langage, quel que soit, même si c'est le nôtre, n'est jamais totalement le nôtre. Ma langue, théoriquement maternelle, n'est pas tout à fait une langue maternelle. Et moi, je le sens parfaitement lorsque je parle français. Le français, normalement, est ma langue maternelle, mais je n'ai pas du tout, avec le français, le rapport d'évidence qu'on aurait d'une langue maternelle. Je suis obligé de réfléchir à mes mots comme si j'étais un locuteur étranger. Comme le français ne me vient pas comme tel, il ne me vient pas intimement. Je suis obligé de tenir ensemble, de constituer avec des éléments qui sont dans ma mémoire les phrases que petit à petit je prononce devant vous. Ce qui est comme si, pour utiliser des termes de linguiste, j'étais en permanence peu ou prou, alors pas de manière, évidemment, pas de manière totale, comme si j'étais en permanence obligé de recourir à ce qu'on appelle la fonction poétique du langage, comme si la fonction pragmatique était toujours un peu défaillante, comme si le langage ne pouvait jamais être totalement mien. Alors, il ne peut jamais être totalement celui de personne. Personne n'a sans doute jamais de langue totalement maternelle, mais la résistance du langage dans le cas de l'autisme est plus forte déjà liée à du fait de ces particularités de l'apprentissage, du fait de réalités aussi biologiques. Hein, même on sait que dans le cerveau, ce ne sont pas les mêmes circuits qui traitent du langage chez les personnes autistes et chez les personnes non autistes, que chez les personnes autistes, ce sont des zones du cerveau qui sont aussi les zones traitant des gestes qui contrôlent un peu le langage, d'où le fait que leur langage est souvent plus métaphorique et poétique parce qu'il est plus intimement lié que chez d'autres personnes à l'espace, à la spécialité, à la vision. Mais tout cela, ça conduit au fait qu'en permanence, pour nous, justement, le langage n'est pas une parole claire. Le langage est une forme d'extériorité opaque que nous devons interpréter ou sur lequel nous devons miser en le parlant, que nous devons lancer d'une certaine façon, avec tout ce que ça peut avoir de risqué, d'arbitraire et d'effrayant, et de difficile, comme si nous étions en permanence, en parlant, obligés de d'abord tordre ces mots qui ne sont pas tout à fait les nôtres pour travailler à travers eux une langue qui dise quelque chose de nous. Et je pense qu'on peut même aller plus loin. C'est que le langage non seulement pour nous, mais le langage que parlent les autres, ne nous est jamais transparent. Alors, il ne l'est pour personne, mais même ce qu'on appelle le langage ordinaire, même les expressions les plus communes que tout le monde emploie, et ça, c'est la leçon, je pense, la leçon de plus en plus fréquente, de plus en plus urgente de ma vie au fur et à mesure que je vieillis, le langage que l'on considère comme le plus courant, le plus commun, en réalité, nous est souvent le plus opaque. Parce que ce langage, il s'appuie, il fait justement référence aux expériences qui semblent les plus immédiatement partagées, à ce sur quoi les gens dans leur rencontre font, le plus facilement font. Et c'est justement ça qui, peut-être, nous échappe le plus. Ce qui fait que nous nous rendons compte petit à petit que c'est dans l'expression que l'on voudrait la plus quotidienne de ce qui nous importe sur le moment, non pas des choses profondes, mais des choses immédiates, que le langage nous échappe le plus, parce que c'est ce fond quotidien commun du langage dit courant, du langage ordinaire, qui nous est en réalité le plus extérieur, et c'est lui que nous devons refaire nôtre. Et c'est là qu'est le plus grand défi, c'est que faire dans le langage, construire dans le langage cette place qui n'existe pas, ce n'est pas seulement un défi de grande poésie ou de philosophie, c'est de manière plus forte et plus prégnante un défi immédiat, quotidien. Ce sont les petites choses que l'on manque, qu'on a tendance le plus, je veux dire, à manquer. C'est le petit commerce quotidien de l'échange qui nous pose le plus grand défi, et c'est vraiment là qu'il y a que cet effort ne cesse de s'exercer. Je terminerai peut-être sur ces derniers mots. Moi, j'ai l'impression que au fur et à mesure que je vis, mon expérience qui était d'une opacité gigantesque, petit à petit s'éclaire, mais il m'a fallu presque 40 ans pour me rendre compte de cette opacité et pour me rendre compte que les mots que j'employais dans l'échange quotidien en réalité étaient employés totalement à l'aveugle et que dans ce que je croyais être un échange, il y avait un écran noir. Et plus je vieillis, plus j'ai l'impression de mettre un peu de lumière sur cette énorme obscurité. Mais je pense que la leçon peut-être la plus intéressante de tout ça, c'est que, en tout cas dans l'autisme et sans doute aussi pour tout le monde, à force de découvrir que nous sommes à nous-mêmes une énigme, nous découvrons aussi que vieillir, ce n'est pas s'affaiblir. Parce que moi, plus je prends de l'âge, plus je découvre de nouvelles choses et plus je découvre des nouvelles possibilités, que ce soit des mots ou du corps. Et j'ai plutôt le sentiment que à partir de là, d'une sorte d'exploration qui s'accroît. Enfin, là où l'autisme, je pense, est intéressante, c'est que plus le temps passe, plus on a l'impression d'être jeune, parce que plus on a l'impression, je ne vais pas dire de se posséder, mais plus on a l'impression que cet immense pan opaque dont on ne soupçonnait même pas l'existence, je ne vais pas dire c'est clair, mais petit à petit commence à nous donner des prises et finalement le monde s'enrichit. Voilà.
Thank you.
Merci beaucoup, cher monsieur, pour cette belle conférence. Et nous allons partager maintenant la confession de foi autour d'un texte un peu singulier que certains d'entre vous ont déjà entendu ici, choisi parce que il incite beaucoup à croire dans le pouvoir du dialogue dont au fond vous venez de nous parler. Donc je vous incite à vous lever pour écouter cette confession de foi. Vous pouvez suivre aussi à la dernière page des feuilles blanches que vous avez dans les mains. Je crois à la force créatrice, agissant en toutes choses et en interdépendance de tous les peuples et de la création. Et je crois que c'est l'esprit qui donne son énergie vitale à tout ce qui existe. J'aime la vie qui anime toutes choses et je crois en elle. Je crois en la puissance infinie de l'amour, du pardon, de la compassion et de l'espérance. Je crois qu'il faut lutter contre les forces négatives de la méfiance, de la jalousie, de l'intolérance et de l'impatience, afin de promouvoir la justice et le fair-play. Je crois au bonheur de chaque être humain à être accepté tel qu'il est et à sa liberté de pouvoir être lui-même. Je crois au pouvoir de la musique, de l'art, de la littérature, de la création et du dialogue entre les humains pour éveiller le sens du divin. Je crois que, dans la tradition chrétienne, Jésus a trouvé la perle de grand prix et a su montrer par son enseignement et sa crucifixion la voie de l'amour désintéressé. Je crois qu'il y a d'autres voies dans le monde que celle de la tradition biblique qui conduisent à la vérité. Je crois que le royaume de Dieu peut être atteint ici et maintenant, que les vérités du credo que voici sont éternelles, alpha et oméga, enracinées dans le passé, le présent et l'avenir. Je crois que ce qui survit de nous est l'amour que nous avons donné aux autres et à la création. Je crois que l'enfer n'existe pas, sauf lorsqu'on attend l'autobus sous la pluie un soir de novembre, lorsqu'on est perdu, tout seul, abandonné, affamé, dans le froid et la pauvreté, ou lorsqu'on est traité injustement. Je ne crois pas que je suis sauvé par du sang, de la souffrance et un sacrifice. Je ne crois pas que Dieu soit au sommet d'une hiérarchie qui descend jusqu'à l'homme, puis aux animaux, aux plantes et aux objets inanimés. Je ne sais pas si je crois en la vie après la mort. D'ailleurs, qu'elle existe ou non ne changerait rien à mon comportement. Je ne sais pas comment le monde a été créé, j'y réfléchis. Je crois en la vie avant la mort, je crois en l'esprit, je crois que Jésus était sensationnel. Je crois que la Bible dit quantité de choses merveilleuses, mais aussi des choses discutables qu'il faut trier. Je crois en l'amour, en la lumière et au partage. Amen. Et nous prenons le 258, nous te célébrons Dieu de vérité, les trois strophes.
prenez place. Oui, merci beaucoup, Monsieur Forestier, de nous avoir ainsi rendu un peu plus sensibles, un peu plus ouverts à ces décalages, ces délais, cette non-connivence, cette opacité. Et aussi, bien d'autres choses, mais aussi d'avoir dit que vieillir, ce n'est pas s'affaiblir. Dans la suite de la journée, déjà tout de suite après le culte, plusieurs choses. Vous trouverez au fond du temple, vous l'avez certainement vu en entrant, un stand de livres tenu par la librairie protestante C'est ici. Merci à Christelle d'avoir apporté ses ouvrages et d'assurer la tenue du stand aujourd'hui et puis lors du dernier culte. Et ça nous permet aussi à la fois de retrouver les ouvrages de nos intervenants, mais d'autres aussi, beaucoup plus largement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour vers les tables au fond du temple. Après le culte également, pour permettre un temps d'échange, parce que si nous faisons un culte conférence sur le dialogue ou sur n'importe quel autre thème, c'est aussi pour pouvoir se parler. Donc après le culte, il y aura un verre de l'amitié qui sera servi dans la petite salle vitrée dans l'entrée du temple. Donc n'hésitez pas à prendre encore un peu de temps pour des échanges, des rencontres ou des retrouvailles. Et puis après le culte, après le verre de l'amitié, il y aura dans la salle du deuxième étage le repas dit des JMJ, ce qui signifie jeune et moins jeune, ce qui veut dire que c'est ouvert à tous. Et la manière de faire du repas des JMJ, c'est que chacun apporte quelque chose à partager. C'est facilité par le fait que le marché est au coin de la rue, si vous n'avez rien apporté, mais si vous venez sans rien du tout, eh bien on partagera. Et lors de ce repas, ceux qui le souhaitent pourront intervenir pour présenter des livres, enfin un livre, qu'ils ont envie de faire connaître. Donc voilà, on repart en général de ce repas avec une petite liste de livres à lire. Et c'est une bonne chose. Également, après le culte, en face de la salle vitrée, une autre salle ouverte, dans laquelle Nadine peut recueillir aujourd'hui ce que vous aurez apporté, produits alimentaires, d'hygiène ou d'entretien, qui sont ensuite apportés à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Cette collecte est effectuée tous les dimanches, donc si vous revenez dimanche prochain, vous pourrez apporter quelque chose pour cette épicerie solidaire, et la liste des produits dont elle a particulièrement besoin en ce moment est affichée sur la porte de la salle. Donc n'hésitez pas à participer à cette solidarité. Je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. Pour la semaine prochaine, mardi 14, deux rendez-vous. Le premier, vers 11h30, c'est la pause biblique qui se retrouvera dans la salle vitrée et poursuivra sa lecture de l'Épître de Jacques. Et merci à Nicole qui organise toujours le délicieux repas déjeuner avec lequel nous commençons cette pause biblique. Et puis à 20h, ce sera la séance du mois de janvier du Conseil presbytéral du foyer de l'âme. Mercredi 15, à 19h30, dans la salle du deuxième, le groupe biblique, un autre groupe biblique, qui lui aussi lit l'Épître de Jacques. Jeudi 16, la pause spirituelle à 12h30 dans le temple, qui permet de se poser, dans tous les sens du terme, dans le silence, dans la prière, dans la fraternité et dans le partage biblique. Et jeudi 16 à 18h30, ce sera la réunion du comité de l'entraide du foyer de l'âme. Le vendredi 17, le groupe des jeunes adultes se retrouve pour une soirée conviviale à 19h30. Alors ce sera au presbytère et pas dans la salle du deuxième. Samedi 18 à 9h30, les moniteurs d'école biblique pour la préparation des séances à venir. Et à 14h30, le groupe Ciel et Terre, Philo, Théo, dans la salle du deuxième, se retrouvera autour du livre du théologien John Cobb, Thomas pris de doute. Et puis, quoi d'autre, Christian ? Voltaire, voilà. Donc, une rencontre fort intéressante. Dimanche prochain, ce sera donc le deuxième culte conférence, et nous aurons la joie de recevoir Olivier Guivarch, qui est secrétaire national de la CFDT et qui donc nous parlera du dialogue social. Il y aura également après le culte un verre de l'amitié. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire, Dominique, pour l'entraide ? Est-ce qu'il y a des choses ? Non, pas cette fois-ci. Est-ce que d'autres choses à se dire ? Eh bien alors, voilà, oui. C'est le moment de l'offrande avec laquelle le foyer de l'âme peut remplir sa mission, mais surtout, surtout, que vous soyez habitué ou pas, que cette offrande soit libre, parce qu'il est important qu'elle soit joyeuse.
Nous prions. Éternel notre Dieu, notre prière aujourd'hui porte un écho du besoin de dialogue du monde entier. Beaucoup d'hommes, de femmes souffrent dans un monde où triomphe l'invective et le goût du conflit, dans un monde où règne le mensonge, la manipulation, le harcèlement, dans un monde où l'on a plus peur de l'autre que le désir de s'ouvrir à la différence. Dans un monde où les nations refusent le dialogue et choisissent la guerre, dans un monde où les religions sont plus souvent source d'affrontements qu'écoles de tolérance. Notre Dieu, nous t'apportons les humains avec leurs souffrances. Nous avons un peu de force, un peu d'amour, nous te les présentons pour que tu les multiplies, pour l'amour de nos frères et sœurs. Nous te les présentons pour que tu nous inspires la force de faire triompher le dialogue, l'écoute, la tolérance et la paix. Et nous te disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est bientôt la fin de notre culte. Alors je crois que nous avons bien compris qu'il ne suffit pas de dire « faut qu'on se parle », il faut aussi apprendre à se parler et il faut créer les conditions de la rencontre. C'est donc ce que nous faisons en vous conviant à ce pot de l'amitié, ce verre de l'amitié dont Dominique nous a parlé. Nous chanterons juste avant un dernier cantique, le 279, nous profiterons jusqu'au bout du talent inspiré d'Elisabeth, notre organiste. Et donc nous prenons le 279, « Confie à Dieu ta route », les strophes 1 et 4. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix.